Nous sommes à Lyon en 1979, à l'hôtel PLM, où Paul Neugier avait l'habitude de tenir ses cours. Il nous parle du réflexe auriculo-cardiaque.
Et en effet, j'insiste particulièrement sur le fait que le RAC, pour la première fois, permet de faire des diagnostics. C'est ce qui fait la valeur du RAC. Et on s'est posé la question, naturellement, depuis quelque temps, pour savoir si j'étais le premier qui ait découvert ce nouveau paramètre. Eh bien, en réalité, non, je ne suis pas le premier, mais il n'était pas appelé le RAC. C'est le professeur Le Riche, en 1943, qui décrit à l'occasion d'un malade porteur de l'anévrisme de l'aorte, de la fémorale, un phénomène réflexe du même genre que le réflexe auriculo-cardiaque. Il met sur le compte de la pathologie artérielle la possibilité de mise en évidence de l'observation étonnante qu'il relate. Il est certain que cette observation est tellement importante que vous me pardonnerez de vous la lire. René Le Riche, en effet, relate avec son art de l'observation une observation médicale que nous estimons absolument fondamentale. J'ai observé, dit-il, en juillet 1941, un homme de 19 ans, de 39 ans, dont je vous rapporterai plus tard l'observation détaillée, qui présentait depuis 1934 un anévrisme artério-veineux méconnu de la région intérieure gauche. La longue durée de l'évolution avait entraîné, comme de coutume, une dilatation artérielle considérable en amont et au milieu de la cuisse. À un travers de main de la fistule, il existait un véritable anévrisme pulsatil. L'artère fémorale, depuis là jusqu'à l'arcade et l'iliaque externe, était manifestement dilatée. Il était facile d'apprécier entre deux doigts leur élargissement au niveau de l'arcade. On y avait l'impression à la palpation d'une grosse aorte très douloureuse. Le 14 août, je découvris la fistule, séparait l'artère de la veine. Puis les deux vaisseaux furent fermés latéralement par une suture. Le malade guérit opératoirement sans incident. Et voici les faits que je pus observer. Au troisième jour, quand je défis le pansement, au moment où je décollais, les bandes adhésives qui fixaient la gaze sur la cuisse, la dilatation fémorale signalée et l'artère tout entière se mirent à battre violemment. Il n'y eut pas besoin que le malade m'en prévînt, c'était visible à travers le pansement. Je laissais se calmer les battements, puis j'excitais la peau. Aussitôt, les battements violents, désagréablement perçus par le malade, reprirent, et ceci à plusieurs reprises. Il en fut de même les jours suivants. Aussi longtemps qu'on ne touchait pas la peau, le battement artériel était normal et le malade ne le percevait pas. Dès qu'on touchait la peau, la pulsation augmentait de force et de rythme et le malade percevait distinctement chaque battement. Au mois d'octobre, le malade fut revu après un mois de convalescence. Il me raconta qu'il avait observé avec soin le phénomène qui m'avait intéressé. Il n'y avait aucun doute. Toute excitation de la peau de la cuisse faisait toujours et immédiatement apparaître des battements artériels violents et douloureux. Effectivement, je puis de suite contrôler son auto-observation. Il y a plus, me dit cet homme intelligent. Pendant ma convalescence, quand je lisais un roman policier, dès que la situation devenait empoignante, je me trouvais interrompu dans ma lecture par la violence des battements artériels de ma cuisse, alors que sur les autres artères, je ne sentais rien. La suite de l'observation est très intéressante, je la passe malgré tout, parce qu'on ne peut pas détailler les choses indéfiniment. Mais le Riche insiste tout particulièrement sur le fait que la pathologie, souvent, nous révèle des symptômes que la physiologie laisse presque inaperçus. C'est en 66 que, tout à fait par hasard, en palpant l'artère radiale d'un de mes malades et en touchant le pavillon de l'oreille, j'eus l'impression que le pouls se modifiait dans sa structure. J'ai dit à cette époque que le pouls s'effondrait. Oh, j'avais l'impression d'un effondrement. Je repris cette expérience aussitôt que je la constatais, je la développais les jours suivants, j'intéressais également mes collègues et, à l'évidence, on a été obligé dès le début, en 66, de s'incliner. Il y avait là un phénomène qu'il fallait analyser, certes, mais un phénomène nouveau. Ce qui est intéressant, c'est que la perception se fait sur une artère saine. Oui. La perception se fait sur une artère saine, tandis que dans le cas de le Riche, il s'agissait d'une artère malade. On comprend que sur une artère malade, on puisse avoir des phénomènes particulièrement évidents, extrêmement représentatifs d'un phénomène nouveau. Tandis que sur une artère saine, c'est plus difficile. Et c'est là que va se situer tout l'effort que nous avons réalisé depuis 1966, c'est-à-dire maintenant plus de 12 ans, pour essayer de capter d'abord, de mettre en évidence ensuite par les enregistrements, ce phénomène qui nous avait paru tellement intéressant. Il faut savoir que le RAC, donc réflexe auriculo-cardiaque, n'est pas un rythme. Deuxièmement, que contrairement à ce que certains collègues, confrères, arrive à réaliser, car il y en a quelques-uns qui semblent avoir senti, vous le verrez tout à l'heure que c'est théoriquement possible, sentir un déplacement au cours des battements. En réalité, vous ne pouvez pas le faire. Et moi-même, je ne le perçois pas. On ne perçoit pas le déplacement longitudinal de l'artère de l'onde radiale. Le RAC n'est pas un pouls filant, au sens, vous savez, on a parlé en Occident des pouls filants, de pouls spéciaux, de pouls dicrotes, etc. C'est pas ça du tout. Ce n'est pas un pouls tout à fait particulier tel que nous le connaissons en Occident. Ce pouls se perçoit mal si on a une idée préconçue aussi. Évidemment, si vous avez eu une description curieuse du RAC, et si vous n'avez pas suffisamment bien compris l'exposé que je vous donne, eh bien, vous allez ne pas le percevoir, car il est tellement subtil qu'il faut savoir ce que vous allez trouver, je vous le dirai. Il se découvre avec la latéralité dominante, qu'est-ce que ça veut dire ? Il se découvre avec la main droite chez le droitier, la main gauche chez le gaucher, c'est-à-dire qu'en palpant le pouls, vous emploierez toujours au début la main qui a l'habitude d'être dominante. Vous êtes droitier, vous employez d'abord le pouce droit ou les deux doigts de la main droite pour percevoir le pouls. Mais dans un second temps, une fois que vous saurez que ce pouls existe, que vous l'avez perçu, vous allez employer l'autre main qui, elle, n'a pas l'habitude de ses perceptions, et au cours de ces perceptions, vous allez développer dans le cortex cérébral un centre nouveau qui sera infiniment plus subtil, plus fin, qui donnera des perceptions beaucoup plus élaborées que celles que donnerait la main dominante. L'oracle demande surtout une bonne position du doigt sur l'artère et nous aurons l'occasion d'y revenir souvent. Ce n'est pas quelque chose de très important. Qu'est-ce que l'oracle ? Je l'ai appelé réflexe auriculo-cardiaque. En réalité, si l'on veut bien creuser avec les années, 66, 68, 72, 76, etc., peu à peu, l'oracle s'est effrité dans sa dénomination. Et aux dernières réflexions, on se demande si c'est un réflexe, probablement pas un réflexe. Il est certainement en rapport avec l'oreille, c'est sûr, mais il n'est pas qu'avec l'oreille en rapport. Et il n'est pas totalement lié au problème du cœur. Bien sûr qu'il est lié au problème du cœur, puisque à chaque fois que nous le percevons, c'est une onde cardiaque qui arrive. Donc, malgré tout, si on analyse ce paramètre, on finit par en paradoxe à dire que c'est ni un réflexe, ni auriculo, ni cardiaque. Ou du moins, ça n'est pas que ça. Alors, en définitive, on s'est dit, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, nous percevons un signal. Ça, alors, tout le monde est d'accord là-dessus. C'est un signal. Alors, ça n'entérine pas le mot réflexe. C'est un signal. Et c'est un signal qui est un rapport extrêmement étroit avec le système végétatif. Alors, c'est un signal végétatif. Et nous le percevons où ? On le perçoit au niveau d'une artère. Alors, c'est un signal végétatif au plan vasculaire. Et comme le sigle était extrêmement difficile à monter avec ce mot français, cette expression française, j'ai eu l'idée qui fait lever les cheveux sur la tête de certains confrères parisiens que j'ai eu l'occasion de rencontrer il y a quelques semaines, la dernière fois, à la Confédération, en leur disant, on l'appelle le vascular autonomic signal. Alors, il dit, pourquoi employer un mot américain, un mot anglais, alors que nous pouvons tellement bien le faire en français, bien sûr, mais c'est plus facile parce que ça fait le VAS, tandis que ça ferait, je ne sais pas quoi, ça ferait le SVA, on ne saurait plus ce que c'est. Alors, le VAS, ça fait pas mal. Voilà donc le RAC qui se transforme peu à peu en VAS. On peut dire l'un, on peut dire l'autre, mais c'est pour vous dire que je n'ai pas d'illusion, le premier nom de baptême était mauvais. On s'est demandé, évidemment, ce que c'était que ce signal, et s'il était en rapport avec l'étude ce qu'on appelle le pouls chinois. Peu d'entre vous, peut-être, sont au courant du pouls chinois. Il faut quand même, non pas en parler, mais dire que cela existe. Et le pouls chinois, voici les comparaisons qu'il y a entre le RAC et le pouls chinois. Le pouls chinois, c'est une mauvaise expression. Ce sont les pouls chinois. Car lorsque l'on prend l'artère radiale, il y a une large longueur sur lesquelles l'artère bat. Et les Chinois ont distingué au niveau du poignet trois étages longitudinaux qui se séparent par la largeur des doigts. Ils mettent trois doigts au niveau des artères. Ils prennent l'artère et les battements de l'artère sur trois doigts. Ils le prennent d'une manière superficielle, moyenne et profonde au point de vue appui. On a donc des quantités de combinaisons. Ce qui passe sur sous l'index, sous le médius et sous l'annulaire, ce qui est superficiel, moyen et profond. On a donc, je ne sais pas combien de tours, on en a 12, on en a 14, on en a 15, on en a 16, ça dépend des auteurs. Et il est certain que c'est tout à fait différent de ce qui se passe pour le rack. Pour le rack, on a un seul tour. On n'utilise qu'une seule partie de la Terre. Donc, première différence. Deuxièmement, chaque poule chinois qui correspond à ce qu'on appelle un méridien qui est attaché à un organe, qui est attaché à une fonction, assez mal définie du reste en Occident, mais qui correspond à quelque chose en Orient, eh bien, chaque poule est définie par rapport à tous les autres, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de mesure absolue, mais relative. Au contraire, dans le rack, la mesure, elle est absolue. Vis-à-vis de ce que l'on observe, on va voir des variations. La mesure est isolée, indépendante. Enfin, pour le pou chinois, nous allons avoir des perceptions de forme. Chaque pou, on va dire, tel pou est fort, tel pou est faible. Tel pou est en dôme, tel pou est fin ou creux ou tout ce que vous voudrez. Il y a des descriptions. Ces descriptions sont des descriptions fixes. Au bout d'un quart d'heure d'examen, on aura toujours le même pou qui aura la même forme. Et c'est pour cette raison que je me suis permis de dire qu'il y avait une certaine stabilité, une certaine permanence dans les poux chinois. On recherche du reste cette permanence, et les vieux auteurs chinois faisaient des examens de malades qui étaient relativement longs. On laissait reposer le malade, on lui prenait son pouls, et puis on attendait un moment, 5, 10 minutes, un quart d'heure, de manière à ce que tout se stabilise. On cherche en somme une photographie des différentes tonification ou des différents tonus de chacune des ondes artérielles qui se projettent au niveau des 12 pouls. Tandis que pour le rack, c'est tout à fait différent. On recherche des variations de forme. Sur un seul pouls, tout est dans le mouvement dans le rack. Dans le pouls chinois, tout est stabilité, ou du moins nous essayons d'avoir une image stable. Donc les différences sont absolument fondamentales. Il n'y a rien de commun entre le pouls chinois et le rack. Au début, nous nous sommes demandé, mais de quoi s'agit-il? Et on pense à des choses simples. Je me suis dit, c'est une vasoconstriction de l'artère, une vasodilatation de l'artère, comme si c'était possible. Bien sûr, il y a des vasodilatations et des vasoconstrictions, mais elles sont imperceptibles. Alors, on avait pensé à des choses très simples. Puis, un jour, j'ai eu la chance d'être convoqué pour une réunion de travail à la faculté d'Orsay, dans le service du professeur Comolès. C'est mon ami Pierre Ravichon de Montpellier qui avait eu la gentillesse de me prévenir, sachant que je m'intéressais beaucoup à cette question. Lui et son équipe s'étaient déplacés, et nous avons eu l'occasion, pendant toute une matinée, d'étudier un modèle analogique formé d'une cuve parallélépipédique que vous voyez dessinée sur ce schéma, et dans la partie moyenne, cette cuve qui avait à peu près un mètre et quelque chose de long, 40 cm de côté, et qui était recouverte par une membrane de caoutchouc. C'est cette membrane de caoutchouc qui est représentée par cette coloration verte sur la cuve. On faisait varier à l'entrée de la cuve une injection d'eau par une pompe à vitesse variable, toute la cuve étant remplie par le liquide et ayant à l'extrémité un système de robinet pour l'écoulement qui pouvait être plus ou moins modifié donnant une pression de départ plus ou moins forte. Et c'est ainsi que, suivant le rythme donné au départ et suivant la pression de sortie de la cuve, on voyait se modifier la forme de la membrane de caoutchouc qui prenait des allures très curieuses avec des ondes variables se déplaçant le long de la cuve. À chaque fois, le professeur Comollet me demandait de toucher cette membrane de caoutchouc pour me dire si j'avais l'impression que ça correspondait à ce que j'observais sur l'homme. Et c'est au moment où on a eu l'onde stationnaire, c'est-à-dire des battements sur place de la membrane de caoutchouc, c'est à ce moment-là que j'ai ressenti au toucher la même impression que celle que j'avais sur les malades. On a donc été fort satisfait de penser qu'il s'agissait non pas d'une dilatation, mais peut-être de la mise en évidence d'une onde stationnaire. Voici les enregistrements qui avaient été faits au cours des expériences. Je passe rapidement, c'est simplement pour vous montrer qu'un travail de sérieux avait été réalisé. Voici des ondes discordantes qui se rencontrent au niveau de l'appareil et qui ont été enregistrées par des jauges de contrainte à deux points. L'un qui se trouve, et vous l'avez peut-être vu sur le schéma primitif, l'un qui se trouve au point grand A de la cuve et l'autre au point grand B. Voilà. Il y avait deux jauges de contrainte qui permettaient de savoir ce qui se passe au cours des différentes manipulations de la pompe à eau et de la fermeture du robinet. Voici des ondes en phase qui, en effet, ont une autre forme. Il y a déjà une harmonie plus grande. Quant aux ondes stationnaires, elles se présentaient comme ceci, c'est-à-dire que les courbes étaient absolument identiques dans les deux points de l'enregistrement de la cuve. Et cette onde stationnaire, suivant la pression appliquée à la sortie de la cuve, c'est-à-dire suivant que l'on faisait varier très légèrement l'écoulement de l'eau injectée, cette onde stationnaire est susceptible de se déplacer d'une manière imperceptible à droite ou à gauche. Et c'est l'hypothèse que nous avons admise jusqu'à présent sur l'existence du RAC. Le RAC serait une onde stationnaire, perceptible au niveau du bout, et qui, au cours des différentes modifications, se passant au plan végétatif des artérioles, ferait que cette onde stationnaire se déplacerait, nous allons voir comment, un peu dans le sens longitudinal. Très peu, mais suffisamment. Alors, tout devenait possible dans l'hypothèse en question lorsque l'on place un pouce, ça s'est extrêmement grossi, au niveau de l'onde radiale. Nous voyons que, suivant les deux positions du pouce, nous pouvons avoir des modifications qui nous font croire, puisque l'onde se déplace, que le battement est plus fort ou que le battement est moins fort. Nous allons le revoir tout à l'heure. Ne prenez pas ce schéma tout de suite. Il est à revoir tout à l'heure. Mais simplement pour vous montrer que le même mécanisme que celui du modèle analogique de la faculté dorsale peut se produire au niveau des mains, je vous montre le schéma et je vous rappelle le schéma de l'artère radiale et de ses connexions et de ses rapports avec l'artère cubitale et avec les arcades radio-palmaires et radio-cubitales qui est cubito-palmaires et les artérioles qui se divisent et se prolongent jusqu'au niveau des doigts. Un schéma un peu plus précis vous montre par exemple que une des artères les plus importantes est celle qui irrigue l'index et qui part à la fois de chacune des deux arcades, cubito-palmaire et radio-palmaire. La connaissance de cette disposition est très importante parce que au niveau des artérioles, il suffira d'une vasoconstriction due à des modifications du système orthosympathique qui, comme vous le savez, entoure chacune des artérioles pour provoquer un freinage. Ce freinage est absolument semblable à celui qui se passe dans la cuve, c'est-à-dire que vous avez plus ou moins de ce que nous appelons de charge à la sortie de ce système hydraulique. Mais nous avons une complication. Vous voyez déjà que les deux arcades forment des espèces de liens entre l'artère radiale et l'artère cubitale, ce qui ne va pas simplifier le problème. Mais il y a plus. Au niveau du poignet se trouve un ensemble extraordinairement complexe d'anastomose, véritable lacis artériel qui réunit les artères cubitales et radiales et les deux arcades, à ce point que chaque fois que va se produire une vasoconstriction, donc un obstacle, eh bien les conséquences de ce que nous allons maintenant appeler l'onde de retour, car il va y avoir une espèce de réflexion sur cet obstacle, cette onde de retour qui est à l'origine de l'onde stationnaire, comme je vais vous le montrer dans deux secondes sur le tableau noir, eh bien cette onde de retour va se diviser, se perdre dans ces lacis artériels qui sont justement là pour éviter à l'individu d'avoir la sensation de pulsation. Il est certain que si vous avez une onde stationnaire, vous avez la possibilité de résonance, c'est-à-dire d'aggravation, d'augmentation de la sensation de pulsation. Et si nous n'avions pas tout ce lacis artériel, eh bien nous aurions l'impression à chaque instant que notre main bat. Du reste, au point de vue pathologique, vous savez que des malades viennent nous trouver en lui disant « c'est ennuyeux, je sens battre mes artères, je les sens ». On ne doit pas les sentir et on ne les sent pas parce qu'il y a toute une organisation de compensation. Vous voyez donc déjà comment ça se présente. Nous avons trouvé qu'il s'agit d'un système hydraulique extrêmement complexe, avec des quantités de compensation pour justement éviter quoi donc ? Eh bien que l'on repère le rack au fond quand on réfléchit. Le rack ne se repère pas facilement, il se perd dans toutes ces anastomoses. Alors je vais vous montrer comment le mécanisme du rack se produit. Imaginons une artère. Je la grossis énormément. C'est l'artère radiale. Elle a une extrémité et il y en a une autre. Nous prenons une portion de cette artère radiale. Nous avons une onde qui vient du cœur et nous allons le symboliser, ce cœur, le voilà, il est là. Et nous avons cette onde qui va jusqu'au niveau de la main. Alors nous symbolisons la main par ce petit chiffre. Le voilà. L'onde qui va du côté du cœur à la main, nous allons la marquer en noir. Elle se déplace. Et elle se déplace à une vitesse très grande. Elle se déplace à la vitesse de 9 mètres à la seconde. Alors, voici ce qu'on peut dire. Au cours de la variation du rack, le pouls devient plus dur, en dos, vibrant, fin et coupant. Voilà les, à peu près ce que nous pouvons isoler comme sensation. Cette planche est très importante. Veuillez la copier si c'est nécessaire. Et vous rappelez que lorsque le pouls devient ainsi, on dit que le rack est positif, qu'il augmente, qu'il croît ou qu'il est fort. Et quand on dit le rack, on dit aussi le réflexe et on dit le pouls. C'est-à-dire qu'il y a tout un ensemble de une terminologie qui se substitue l'une à l'autre. Et il ne faut pas dire, lorsque vous entendez dire le pouls a augmenté, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le rack a augmenté. Donc plus dur, en dôme, vibrant, fin et coupant. Lorsque le pouls devient plus mou, en cuvette, lisse et large, on dit que le rack est négatif, qu'il diminue, qu'il décroît, qu'il est faible. Le rack ou le réflexe ou le pouls, parce que quand on dit le rack, et dans le langage courant, on dit le pouls quelquefois ou le réflexe. Bref, dans notre conversation d'auriculomédecin, il ne doit pas y avoir de doute dans nos conversations. Quand on parle du pouls, on parle du rack. On ne peut pas parler d'autre chose. Le fait qu'il y ait des variations dans la sensibilité, dans la captation de ce rack, montre que ça n'est pas simplement une question uniquement mécanique, mais qu'il s'y surajoute des vibrations légères qui sont dues à toutes les variations que je vous ai signalées tout à l'heure au niveau de ce système hydraulique complexe avec ses anastomoses, et c'est là où je peux rajouter le problème du flux sanguin. Car il ne faut pas oublier qu'il intervient aussi. Et il intervient au niveau de ses sensibilités très particulières. Quand vous avez par exemple un pouls fin et coupant, il est probable qu'il doit y avoir une modification au niveau du flux. Et voici l'endroit que vous aurez l'occasion de voir et de revoir, la zone favorable pour l'exploration de l'artère radiale avec le pouce. Vous voyez dessiner une coupe du radius, vous voyez le ressaut en bas de l'apophyse styloïde, ressaut qui représente une pente, voilà la pente. Cette pente, vous aurez l'occasion de la repérer au cours des travaux pratiques et vous la verrez repérée dans les projections qu'on va vous faire tout à l'heure. Voici également une définition qui a été donnée de la valeur positive ou négative du rack. Étant donné qu'il y a le déplacement d'une onde stationnaire, il était donc nécessaire de définir lorsque l'onde stationnaire se déplace du côté de la main ou qu'elle se déplace du côté du cœur ou du coude, il fallait définir si elle était positive ou négative. Alors nous avons pris cette définition. Cette définition semble, à notre avis, correspond exactement à ce que nous sentons au pouls, c'est merveilleux, à condition toutefois que le pouce soit bien placé. Par exemple, lorsque l'onde stationnaire se déplace du côté de la main, on dit que le rack est positif, il augmente. Quand c'est de l'autre côté, on dit que le rack diminue. Et je vous ai dit, il faut que le pouce soit bien placé, nous le verrons tout à l'heure, parce que s'il est mal placé, eh bien nous allons avoir une sensation différente. Vous voyez bien que le pouce peut être placé d'une manière anormale ou bonne vis-à-vis de l'onde stationnaire du pouce. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Il y a deux positions possibles, à cheval sur cette onde, soit en deçà, soit au-delà. Et suivant la position, nous allons sentir ce qui doit être positif sera négatif, et ce qui sera négatif sera positif. Donc, la position du pouce est très importante, nous la revoyons là. Voyez-vous, voici dans trois positions, 2 et 3, voici dans trois positions ce qui peut se produire. Dans la position 1, vous avez un contact moyen avec l'artère qui bat. Dans la position 2, l'artère, ou plutôt l'onde, s'est déplacée sur la gauche et le pouce a l'impression de ressentir beaucoup plus fortement le battement. Et dans la position 3, c'est dans le sens inverse, vous avez l'impression, au contraire, d'un pouce qui s'effondre. Tout ceci est une impression, mais c'est bien sur ces impressions-là que nous avons fondé tous nos examens. C'est quand même une mesure, et cette mesure est possible par certains appareils d'enregistrement. Donc, rappelez-vous bien que la position du pouce vis-à-vis de l'onde stationnaire est capitale. Il y a de mauvaises positions du pouce, nous en reparlerons. Par exemple, lorsque le pouce est écrasé et à plat sur l'artère, parce que lorsque l'artère, l'onde a une petite modification, par exemple en 2 ou en 3, la pulpe du pouce n'est pas capable de pouvoir sentir des différences. Il y a toujours un battement. On a donc des difficultés pour bien percevoir lorsque le pouce n'a pas une bonne position. Il faut au contraire qu'il soit à moitié plié. Voyez-vous, voilà une bonne position du pouce à moitié replié. On a pu percevoir le réflexe avec deux doigts. Je le donne cette... Je ne parle de cette perception que pour mémoire. Parce que j'estime que ce n'est pas une technique pratique d'examen, mais elle est assez démonstrative. On place à cheval sur l'onde stationnaire l'index et le médius, de telle sorte que dans la première position 1, la sensation de battement se perçoive également sous la pulpe des deux doigts. Nous faisons varier le rack d'une manière ou d'une autre, en touchant la peau, en projetant, comme nous allons voir, différentes stimulations au niveau de la peau ou de l'oreille, et nous avons une variation. À ce moment-là, l'onde s'est déplacée, le médius ressent d'une manière importante le battement, tandis que l'index ne ressent pas. Et inversement, si nous pouvons obtenir une variation dans un autre sens, en position 3, nous voyons que l'artère a une onde qui s'est déplacée vers la gauche du dessin, et c'est l'index maintenant qui va percevoir les battements d'artère, tandis que le médius, lui, aura l'impression d'un manque. Ces perceptions, c'est du reste cette expérience qui nous a permis d'avoir rapidement de nous orienter du côté de l'hypothèse la plus vraisemblable sur l'existence du rack. Alors, avant d'aller plus loin, c'est-à-dire de développer la prise pratique du rack que nous verrons cet après-midi, je vais vous dire ce que le rack est capable de pouvoir percevoir. Car le rack est un système extrêmement sensible qui nous permet de mettre en évidence des stimulations presque insignifiantes qui se passent au niveau du pavillon, mais aussi de la peau, car la peau est sensible au maximum. Il faut être extrêmement prudent, car ne pas oublier que le rack, qui est attaché au système neurovégétatif, va être sous la dépendance de centres nerveux végétatifs qui sont de sorte, et vous connaissez bien, des centres de commande médullaires, bulbaires, mésencéphaliques, et des centres d'intégration qui sont réticulaires, hypothalamiques, thalamiques et corticaux. Lorsque nous avons une onde rétrograde qui va se perdre dans les lacis des artères du poignet, de même, lorsque nous avons un signal, ce signal va se perdre et se confondre et se régulariser au niveau des centres d'intégration. Nous allons donc avoir, pour la perception de ce rack, un nombre d'obstacles considérables qui fait que l'on comprend qu'avant ces dernières années, par suite uniquement de circonstances exceptionnelles, on en a pu faire la découverte, car tout était contre. Tout est contre pour que le rack ne soit pas perçu par l'organisme et fasse au contraire son travail de régulation sans avoir la possibilité, sans qu'on ait la possibilité de le capter. Alors, je signale en définitive et pour terminer avant la pause que j'ai fait retarder très légèrement ce matin pour nous permettre d'avoir un enseignement plus cohérent. Je vous signale deux courts-circuits qui, eux, vont avoir une influence car ils suppriment le CC1, c'est-à-dire celui que nous avons vu tout à l'heure au niveau du point MET sensoriel. Il supprime en général toutes les parasites pour les essais. Alors, prenez ce schéma, puis je vous passerai le reste, vous pourrez prendre le reste. Alors, tous les essais qui sont faits au point de vue détection par la lumière blanche, la stimulation par la lumière blanche, par l'obscurité qui est la pointe noire, la pointe blanche et la diode sont en général non perturbés lorsque vous faites ce court-circuit. C'est-à-dire que les centres de commande et d'intégration surtout ne semblent pas intervenir lorsque vous mettez ce court-circuit. Et puis, lorsque vous faites le second court-circuit, qui est le circuit numéro 3, au niveau de l'antitragus, il semble que vous puissiez faire des mesures tout à fait correctes, non seulement de la lumière blanche, mais lorsque vous approchez de la peau un nanotest et la diode. Mais vous n'avez pas la même sécurité pour la pointe blanche et la pointe noire. Alors je vous fais prendre simplement, et ça sera le dernier transparent, voici pour les courts-circuits. Maintenant, on demande à M. Rambaud quelque chose de venir tout de suite ici. Je voudrais lui demander quelque chose. Voilà donc ce que l'on va voir cet après-midi. Nous reverrons les techniques pratiques pour la prise du pouls, mais déjà, vous allez avoir des renseignements. Je vous ai mis sur vos polycopes le déplacement de l'onde vu sur un autre schéma montrant les différences qui existent lorsque on place le pouce d'un côté ou de l'autre de l'onde stationnaire. On a à l'évidence, dans un cas, nous avons la courbe à deux bosses, puisque nous avons une première bosse à l'augmentation du rack. Ils sont là. Bon, on va tout de suite le faire. Et dans l'autre cas, si nous la passons de l'autre côté, nous avons une courbe à une bosse. Nous retiendrons que la courbe à deux bosses, c'est ce que nous allons reprendre dans un instant, parce que nous allons maintenant laisser la place aux projections de vidéo. Possibilité d'avoir, suivant la position du pouce, une courbe à deux bosses ou une courbe à une bosse. À condition, bien entendu, que nous nous trouvions sur un territoire que j'ai appelé orthosympathique. Qu'est-ce que ça veut dire, un territoire orthosympathique? En effet, parce que vous avez vu tout à l'heure que, surtout sur le film, que j'ai pris la position d'examen de la peau, soit au niveau d'un membre, qui est obligatoirement et souvent orthosympathique, et au niveau de la face, qui, comme vous le savez, est innervée par le trijumeau, c'est entendu, mais dont la tonalité, comme toute la tête, est parasympathique. Alors, est-ce véritablement le fait d'une innervation qui détermine ce tissu? Non, pas du tout. Je veux dire par il est orthosympathique, je veux dire que le tonus du nerf orthosympathique est bon. Le tonus est bon et il y a moyen, si vous voulez, il est sain. La peau n'est pas modifiée dans sa structure nerveuse et nous pouvons faire une mesure correcte. Eh bien, cette mesure, elle est déterminée d'une part par cette courbe à deux bosses, mais également par l'approche d'un détecteur blanc et noir qui doit donner au noir un réflexe du pouls positif. Alors à ce moment-là, nous savons par le noir et blanc qu'il s'agit bien d'une région orthosympathique saine, et d'autre part, nous savons que il y a donc, avec la courbe à deux bosses, une bonne position du pouls sur l'artère. Nous reviendrons du reste sur cette mesure, qui est une mesure très détaillée, mais qui se résume très rapidement lorsque l'on fait une mesure pratique. Et voici la mesure pratique. Premièrement, repérez le ressaut d'apophyse styloïde du radius en descendant le doigt vers le poignet. Vous vous rappelez l'image et le mouvement que nous faisons quand nous allons le long du bras pour buter contre le ressaut d'apophyse styloïde. Deuxièmement, le deuxièmement n'est pas obligatoire. Court-circuiter les lobules et les antitragus du sujet, ça n'est pas obligatoire. Alors, on le passe en parenthèse. Troisièmement, empaumer le poignet et placer le pouce sur l'artère radiale et dans la pente osseuse du ressaut de la styloïde. Quatrièmement, avec la lampe de Heine, éclairage et extinction progressive, on doit sentir la double bosse du pouls, surtout à l'extinction. Et là, c'est extrêmement net. Demain, nous ferons l'essai. Aujourd'hui, nous ferons des essais avec les moyens plus simples. On essayera peut-être avec la lampe, parce que tout le monde n'avait pas des lampes de Heine. Et je conseille demain, à ceux qui seront en travaux pratiques, d'avoir quand même, malgré tout, la possibilité de faire l'essai avec la lampe de Heine. Alors, on a la sensation de perte qui est très nette. C'est surtout à l'extinction qu'on arrive à sentir cette notion de perle. Cinquièmement, le détecteur noir et blanc doit donner une réaction positive au noir si le pouce est bien placé. Encore une fois, tout ça vous paraît peut-être un peu complexe. Il faudrait une bonne heure pour vous donner le mécanisme total et complet du mécanisme. Quand je dis, et je le répète, que on est obligé pour faire une mesure correcte d'être sur un tissu normal, je veux dire que les fibres orthosympathiques ont une tonicité normale. Et cela va se retrouver tout le long de l'étude de l'auriculomédecine, car les points peuvent être des points dont la tonicité orthosympathique n'est pas normale. Souvenez-vous simplement de ce schéma. En éliminant le numéro 2, qui n'est pas toujours obligatoire, surtout dans un premier temps. Et vous n'aurez pas de difficulté à appliquer plutôt, je ne veux pas dire à l'aveugle, mais presque, cette technique. Et au cours des sessions de perfectionnement, je vous montrerai, je vous apprendrai pourquoi, et vous essayerez de comprendre, du reste vous me poserez peut-être des questions, pourquoi. Et il est nécessaire d'avoir une zone normale, et ce qu'on appelle une zone normale, même dans les régions dites parasympathiques. Pourquoi les réactions sont normales ou anormale, suivant que l'orthosympathique a une tonicité normale ou anormale. Ce qu'il faut savoir, c'est que la prise régulière du rack développe la sensibilité et la réceptivité du médecin et met celui-ci en relation trop étroite électriquement avec son malade. Il en résulte ainsi un véritable danger. Là, je suis obligé de faire un petit développement. Et je pense que mon ami Kovacs, avec lequel nous échangeons souvent des remarques et des réflexions, est totalement de mon avis. Le danger est double. Il existe au plan technique. D'abord, parce que lorsque vous prenez un pouls trop souvent et que vous êtes sensible, et Dieu sait parmi vous, il y a certainement des gens qui sont sensibles, vous risquez de recevoir par suite de ce contact qui est trop étroit entre vous et le malade, contact électrique, puisque vous prenez le pouls, vous risquez de recevoir de la part du malade des informations toxiques. Nous avons plusieurs exemples. J'ai l'exemple d'un collègue qui a souffert de la vésicule biliaire pendant 2 ans pour avoir, lui c'était pas l'oreille, c'était l'acupuncture générale, pour avoir piqué un point qui s'appelle le Yang Ling Tsuan, qui est un point qui se trouve à la jambe et qui est un point du méridien de la vésicule biliaire. Il a piqué ce point et à ce moment même de la piqûre, il a commencé à souffrir de la vésicule. Et il a souffert de la vésicule pendant 2 ans. Il a donc reçu de son malade, quoi donc ? Il a reçu une décharge électromagnétique et nous avons fait en auriculomédecine toutes sortes de recherches qui tentent à prouver que l'organisme possède à certains moments des possibilités d'émission de fréquences élevées qui, elles, se transmettent d'une manière très grande d'individu à individu. Et une fréquence élevée correspond, qu'on le veuille ou pas, à une substance chimique. On n'y pense jamais. Qu'est-ce qu'une fréquence ? Eh bien, c'est au fond l'équivalent d'un produit chimique. Qu'est-ce qu'un produit chimique ? C'est l'équivalent d'une fréquence. Et je vais vous en donner un exemple. Quand je vous parle, tous vous écoutez. Est-ce que vous croyez que la sensation, la perception sonore est une perception mécanique ? Certainement pas. Mais combien d'entre vous y songent ? C'est une perception chimique. L'impact sur le tympan va se communiquer au nerf auditif qui lui-même va transmettre son information chimiquement au niveau du cortex. Eh bien, il en est de même de toutes les fréquences. Quand on parle de fréquences, et nous allons vous en parler tout à l'heure ou demain matin, quand on parle de fréquences, on peut parler aussi bien de produits chimiques. Et les transmissions qui se passent au niveau des médiateurs est extraordinaire, puisqu'il y a non seulement la transmission normale, mais des transmissions légèrement altérées. Eh bien, les transmissions altérées signent l'existence d'états pathologiques et, dans le cas précis de ce confrère, qui a été touché au point de vue vésiculaire, il avait peut-être une sensibilité vésiculaire, c'est possible, on n'a pas regardé le détail, mais il a eu une douleur de la vésicule qui a duré près de 2 ans. J'ai vu un autre cas, beaucoup plus dramatique, incroyable. J'ai vu un garçon sensible qui, après avoir soigné un de ses camarades qui était morphinomane et qui avait des idées un peu, peut-être au point de vue neurologique, au point de vue neuropsychiatrique, qui n'étaient pas totalement équilibrées. Il y avait chez lui des espèces d'imagination un peu extraordinaire. Après l'avoir piqué, après l'avoir traité, il est rentré tranquillement chez lui en voiture. Et bien, dans la voiture, il a commencé à entendre parler son copain. Et c'était le début, c'était le déclenchement d'un état schizophrénique qui a failli devenir dramatique, qui actuellement est rentré dans l'ordre, mais qui prouve que dans certains cas exceptionnels, lorsque vous êtes extrêmement sensible, vous pouvez être réceptif à certaines fréquences élevées qui sont transmises du malade au médecin. Donc, premier danger. Pour l'éviter, il ne faut pas être trop sensible. Il faut garder son calme. Il faut garder son esprit objectif. Il faut ne pas se laisser trop prendre par cette espèce de vertige qui prend malheureusement et qui touche beaucoup d'entre nous au bout d'un certain temps. Pourquoi ? Parce que on met à votre disposition en quelques jours ou en quelques semaines un instrument qui est un ordinateur de tout premier plan, qui vaut des sommes qui sont inestimables. On pourrait parler de 200, 300 millions anciens, et encore, ce serait en dessous de la réalité. On vous met ceci à votre disposition. Vous allez pouvoir, grâce à la prise de ce rack, connaître des choses que vous n'avez jamais pu envisager même d'apprendre et de connaître et de percevoir. Alors, il se passe, et il peut se passer, le second danger, qui est le grand vertige psychique, et qui va quelquefois avec le premier, dans lequel on se dit, c'est extraordinaire, mais que ne pourrais-je faire? On se sent un surhomme, on oublie la racine, on oublie que ça vous a été transmis, et de soi-même, on commence à faire des expériences, on commence à être au-dessus des contingences objectives, et c'est une catastrophe. Nous avons eu, à mon groupe, au moins 10 accidents, qui ont été plus ou moins sérieux, mais ça a existé. Et il faut être prudent. Et je ne saurais trop vous le dire. Actuellement, avec mon ami Kovacs, nous sommes vaccinés depuis longtemps. Nous n'avons plus ce vertige, parce que tous les jours, nous transpirons, nous cherchons, nous savons qu'il y a des limites, que ces limites, il ne faut pas les dépasser, qu'il faut rester modeste, et qu'il faut travailler. Voilà le problème. Mais il y en a qui se prennent véritablement pour des Superman et qui finissent par avoir évidemment des accidents. Et nous en parlions encore tout à l'heure. C'est le vertige de l'auriculomédecin. Alors ce vertige, il faut le ramener à des justes proportions. D'abord, au point de vue physique, il faut se mettre en état de ne pas être pris par cette espèce d'angoisse ou cette espèce de délire. Et il faut refuser toute recherche parapsychique sur l'oracle. C'est souvent de ce côté-là que l'on voit les premiers signes d'un dérèglement. Pourquoi ? Vous savez qu'à l'heure actuelle, on est très dirigé du côté de l'ésotérisme, des sciences parapsychiques. On se dit, mais alors avec l'oracle qui est tellement sensible, que ne pourrait-on obtenir ? C'est vrai, on pourrait obtenir des choses. J'ai eu l'occasion moi-même de voir des expériences très intéressantes. Il ne faut jamais les réaliser. Vous n'avez pas le droit et vous n'avez pas intérêt à le faire, sans ça vous risquez de faire des bêtises. Parce que vous allez prendre pour un rack ce qui est simplement votre imagination et vous allez finir par glisser de l'objectivité à la subjectivité. Et vous prendrez pour un rack positif ce qui est simplement une perception plus ou moins personnelle et imaginative. Donc, de ce côté-là, ne perds pas de recherche parapsychique. Il faut aussi rester modeste et critique. Lorsque vous faites des essais les meilleurs, et nous avons des élèves en Allemagne, nous avons des élèves à l'étranger, en Espagne, nous avons des élèves en France aussi, qui se sont soumis à la discipline de ce qu'on appelle le double aveugle. C'est très important. Lorsque vous voulez apprendre le pouls vraiment d'une manière objective, tâchez de faire des stimulations en dehors de vous par un auxiliaire, par quelqu'un qui va toucher ou projeter une lumière sur l'oreille de votre malade. Et alors à ce moment-là, vous répondez « Ah, je sens quelque chose. Ah, je ne sens rien. » Et au bout d'un certain temps, vous allez voir qu'il existe quelque chose de réel, quelque chose vraiment qui est perceptible et vous n'aurez plus cette impression de projeter votre imagination au plan de votre examen. Donc, faites des examens à l'aveugle. Et puis, vous pouvez aussi faire quelque chose pour vous ménager, si vous craignez les, si vous craignez d'être touché par votre malade, si vous avez peur, eh bien, n'examinez et ne traitez vos malades qu'avec un court-circuit. Le court-circuit peut être réalisé par un fil qui vient avec deux anneaux toucher vos deux petits doigts, par exemple, et qui court-circuitera votre propre corps. Vous avez des collègues que je connais qui emploient des gants en plastique, ces petits gants pour les toucher très très fins, et qui peuvent, lorsque vous êtes suffisamment entraîné, qui peuvent vous permettre de prendre le pouls à travers l'épaisseur très fine du plastique. Là, vous n'avez pas la possibilité de recevoir les ondes électromagnétiques de votre malade, parce que le contact n'existe pas. Et vous avez la possibilité de faire pendant très longtemps des examens dans la journée sans ennui. Des gens sont sensibles, d'autres ne le sont pas. Personnellement, je suis peu sensible, même très peu sensible. Et il faudrait vraiment que je réfléchisse bien pour voir si j'ai reçu de tel ou tel malade des informations qui m'ont perturbé. Je pense quand même que j'en ai reçu deux ou trois fois. Elles ont été vite résolues, elles ont vite disparu. La plus gênante a dû durer une demi-journée, elle était extrêmement pénible. Mais il n'y a pas de lendemain. Mais il y en a d'autres, il y a des confrères qui, eux, sont touchés plus longtemps. Ce sont ceux dont le système de vigilance alpha, on vous l'expliquera, on vous montrera ce que c'est, est un système de vigilance ouvert, c'est-à-dire un système qui n'est pas en garde, qui ne vous protège pas, qui ne vous donne pas de protection au point de vue psychique. Il part du point de l'épiphyse, c'est un petit axe qui doit être normalement mobile et qui doit se modifier suivant les stimulations extérieures. S'il ne se modifie pas, eh ben à ce moment-là, vous n'avez pas de protection. Et vous risquez d'avoir des ennuis.